franceinter.fr.
Le journal Yves Decamp. Yves, bonjour.
Bonjour. Elle a quitté le tourbillon de la vie. Jeanne Moreau est morte ce matin à son domicile parisien. Elle avait 89 ans, comédienne pour les plus grands, metteur en scène. Elle avait joué dans 130 films. Elle était aussi actrice de théâtre et chanteuse. Le cinéma, c'était pour elle non pas une carrière, mais une vie. De nombreux hommages ont déjà commencé à fleurir ce matin. Il est des personnalités qui, à elles seules, résument leur art. Jeanne Moreau était de celles-là, écrit notamment le président Emmanuel Macron. Jeanne Moreau, sa vie, son œuvre. Édition spéciale de ce journal de 13h jusqu'à 14h. Avec aussi dans l'actualité la grande patience des usagers du TGV à Montparnasse où la panne de signalisation continue de perturber le trafic. Invité de ce journal, l'ancien député Philippe Duron, spécialiste du réseau ferré et de ses problèmes de financement. Le Conseil d'État qui donne raison aux associations de défense des migrants à Calais. Elle demandait l'installation de points d'eau. Le ministre de l'Intérieur et la ville de Calais s'y opposaient. Leur appel a été rejeté. Au Venezuela, le verre à moitié plein pour Nicolas Maduro qui crie victoire après le scrutin d'hier, l'élection d'une assemblée constituante contestée par l'opposition. La participation n'atteint pas les 42%. Et puis encore raté pour les Françaises à l'Euro de foot, battu 1-0 par l'Angleterre. Du pain sur la planche pour les deux ans qui viennent avant la Coupe du Monde qui se disputera en France. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Quelques averses mais globalement du beau temps.
Oui, de la plaine d'Alsace à la Champagne jusqu'au Berry, le temps sera lourd cet après-midi et les nombreux nuages pourront encore apporter quelques averses localement orageuses comme actuellement entre la Côte d'Or et les Vosges. Quelques averses vont aussi naître sur les Alpes cet après-midi. Temps nuageux également entre le Poitou-Charentes et l'Aquitaine et entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Mais partout ailleurs, les conditions seront plus agréables avec un soleil radieux de la Méditerranée au centre-est et au midi toulousain, mais un ciel parfois bien voilé sur le nord-ouest. Malgré les 20 degrés attendus à Brest, les températures seront estivales, voire torrides sur le quart sud-est. Prévoyez 26 degrés à Nancy, Bordeaux et Paris, 32 degrés pour Toulouse et pour Toulon, 35 degrés à Lyon et jusqu'à 38 degrés à Marseille et à Ajaccio.
Et ce soir, arrivée d'une dégradation orageuse.
Oui, à partir de la fin de journée, des orages localement forts vont éclater. Les premiers orages sont attendus vers 20h sur le nord de l'Aquitaine et se décaleront progressivement vers le nord-est. 14 départements de la Dordogne à l'ouest de l'Auvergne jusqu'aux Ardennes et à la Meuse ont donc été placés en vigilance orange par Météo France.
France Inter. Ce que je crois qu'il y a d'intéressant, c'est d'avoir commencé en 48 où on racontait des histoires autrement, où on filmait autrement. Et puis des gens suffisamment exceptionnels pour découvrir quelque chose d'inhabituel, de surprenant. Et puis la nouvelle vague. Et puis après, ça se transforme encore. En fait, ce sont toujours les mêmes histoires, mais racontées autrement. Bien sûr, c'est un mot qu'on emploie toujours, très souvent, transmettre. Mais on ne partage jamais son expérience. Mais c'est bien de permettre à une jeune femme ou à un jeune homme d'être conscient et d'avoir l'audace d'exprimer ses désirs, de ne pas être timoré. Il y a toujours une flamme chez tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Mais même pour les spectateurs, vous aimeriez transmettre l'idée de l'audace pour tout un chacun?
Bien sûr, il ne faut pas se soumettre.
Eh oui, une voix inimitable, ou plutôt si, très souvent imitée, voix sensuelle et reconnaissable. Elle était une icône du cinéma français. Une partie de son histoire, de ses 60 dernières années, Jeanne Moreau est morte à Paris ce matin. À son domicile, elle avait 89 ans, Eva Bétan.
La séduction, un charme fou, et l'autorité, elle en impose. Une amoureuse et un cerveau. L'amie de Marguerite Duras et la taularde qui couche avec Gérard Depardieu et Patrick Devers dans Les Valseuses. Jeanne Moreau ne s'est jamais laissée circonscrire, encore moins enfermée. S'il fallait chercher un fil conducteur à sa vie, alors il faudrait mettre en premier l'insoumission. Jeanne Moreau commence par le théâtre, la comédie française, qu'elle quitte pour le TNP. Ça ne se faisait pas, elle le fait. Parallèlement, elle débute au cinéma, celui de l'après-guerre. Le cinéma d'Allégret, de Becker, elle semble se fondre dans le moule et voilà qu'un tout jeune homme, on lui dit qu'elle est folle, veut la filmer dans la rue, sans apprêt, sans lumière travaillée. C'est Louis Malle, ascenseur pour l'échafaud, la nouvelle vague lui va bien et elle va bien à la nouvelle vague. Les amants, encore Louis Malle, Jules et Jim, Truffaut, voici l'image d'une femme anticonformiste, libre, muse, d'accord. Enfermée dans un clan, une famille, non. Elle attire à elle les grands cinéastes étrangers, Antonioni, Orson Welles, Buñuel, la carrière est immense. intense et elle dure. Elle joue au théâtre. Le récit de la servante Zerline fera le tour du monde. Sur le tard, elle surprend en tournant pour la télévision sous la direction de José Dayan. Une carrière et une vie. Vieillir et incarner toujours la curiosité, l'intérêt pour la nouveauté, être toujours au présent. C'est celui-là le miracle Moreau.
Parmi les premières réactions de la matinée, celle d'Emmanuel Macron par un communiqué de l'Élysée. Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art. Jeanne Moreau fut de celle-ci, écrit le président de la République. Réaction également de Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Jeanne Moreau s'éteint, mais la voix, le génie et la vision de l'artiste demeurent, Béatrice Nyssen. Françoise Nyssen.
Incroyable sa filmographie, elle a... Elle a fait un travail de dingue. Je regardais la liste et je réalise que j'ai même vu un de ses derniers films, qui est un film tout à fait étrange. J'avais vu à Cannes de Tsang Ming Liang, qui s'appelait Visage. Mais j'avais aussi adoré, quand elle avait joué le personnage de Marguerite Duras dans cet amour-là de José Dayan. Et bien sûr, Journal d'une femme de chambre, bien sûr, La mariée était en noir. Je trouvais ça absolument génial. Viva Maria, quelle gaieté. J'ai le souvenir d'un personnage tellement entraînant et tellement gay. Enfin, tous ces films complètement éclectiques. Cette femme aimait les autres, cette femme aimait transmettre, elle aimait donner. J'ai eu la chance incroyable qu'elle est venue à la librairie dont je m'occupais à Arles, à Actes Sud, pour une rencontre, parce qu'elle aimait les autres, elle aimait les livres et les auteurs, et elle avait rencontré Paul Auster à la librairie, et je me souviens, elle avait souhaité s'asseoir par terre au milieu des gens. C'était magnifique. C'était un moment d'échange et d'écoute, parce que Jeanne Moreau s'exprimant, on ne pouvait pas être autrement que dans happé par l'écoute. Et elle était dans l'échange et dans l'écoute de l'autre. C'est un véritable échange. Voilà, c'est quelqu'un qui manifestait une profonde curiosité et générosité. Elle va beaucoup nous manquer, c'est triste. Et en même temps, elle sera toujours là. Sa voix, sa présence, c'est tellement fort.
La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, au téléphone de Béatrice Duguay. Autre réaction, celle de Gilles Jacob, président d'honneur du Festival de Cannes. Jeanne est partie, dit-il. J'ai une absolue tristesse. Jacques Lang salue une artiste iconique et iconoclaste. Le comédien Pierre Arditi salue la mémoire d'un monument du cinéma français.
Pour moi, Moreau, c'est... La Moreau, c'était... C'est un monument absolu. C'est l'exemple même de ce qu'un acteur, et en l'occurrence là, une actrice, doit faire de ce métier. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais... Elle a pris tous les risques du monde. Elle est passée d'emploi de femme jeune, séduisante, à femme plus mûre, toujours séduisante, et puis à femme terrible, et puis à monstre, et puis à monstre sacré. Et je veux dire qu'elle est un exemple même. C'est-à-dire qu'elle a toujours eu conscience de son âge, de son art, et elle a mis ça au service de ce qu'elle voulait faire dans la vie, c'est-à-dire passer sa vie à être quelqu'un d'autre, tout en se servant de ce qu'elle était elle-même. C'est un personnage absolument magnifique et d'une personnalité extrêmement puissante quand on avait la chance de la côtoyer.
Pierre Arditi au téléphone de Pierrick Bonneau. Jeanne Moreau, c'était le théâtre, on va y revenir, en 47, le premier festival d'Avignon sous la direction de Jean Villard. C'était aussi au cinéma quelques dates importantes, le prix d'interprétation à Cannes en 1960 pour Moderato Cantabile de Peter Brook d'après Duras, le César de la meilleure actrice en 92 pour La vieille qui marchait dans la mer de Laurent Henneman, et puis un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1998, 130 films en tout, la carrière extraordinaire d'une forte personnalité.
Je t'aime. Je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence.
Ma voix, elle a changé avec les années. Et la cigarette, mais ma voix, elle était comme ça, quoi. Faut pas jouer de ses atouts. À ce moment-là, ça devient une manipulation. Non, on peut pas faire ça. Même avec les hommes que je voulais séduire, et c'est pour ça, paraît-il, que je plaisais beaucoup, je n'ai jamais été coquette.
On a été vraiment heureux, tous les deux.
Mais nous sommes heureux. Enfin, moi, je le suis.
C'est vrai. Oui, on restera toujours ensemble, tous les deux. Comme des petits vieux. Garde-moi près de toi.
C'est là où l'art est important. C'est là où nous sommes importants. c'est qu'on peut pleurer et rire sur les mêmes choses.
Si vous ne désirez pas dîner, abominable vieillard glauque et fripé, allez vous faire foutre. Obtenez que par l'amidon de votre chemise et le pli de votre pantalon. Il ne vous suffit pas de n'être plus aimé. Vous cherchez absolument à vous faire haïr. Rassurez-vous, vieux mou, vous êtes sur la bonne voie.
Mesdames et messieurs, mademoiselle Jeanne Moreau.
Je remercie le passé. Je remercie le présent, vous qui êtes tous là. Et bien sûr, je remercie le futur. Devant moi, je vois tous les futurs Césars d'honneur. Celui-là, c'est le deuxième. Et comme on dit jamais 203, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.
Voilà, Jeanne Moreau en résumé, un résumé sonore signé Delphine Evenoux. Jeanne Moreau, on l'a dit, c'était donc aussi le théâtre. Ses dernières apparitions, c'était au théâtre à Avignon en 2011. Elle avait joué au premier festival d'Avignon avec Jean Villard en 47. Le théâtre et la chanson, Jacqueline Pétrose.
Oui, ce que Jeanne Moreau aimait surtout, c'était les mots et les textes. Et pour elle, en fait, il n'y avait pas de frontières pour les interpréter. Par exemple, en 2010, la comédienne enregistre avec Étienne Dao le condamné à mort de Jean Genet.
Ne chante pas ce soir les costauds de la lune. Gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour, rêvant mélancolique à notre pauvre amour. Ou sois le mousse blond qui veille à la grand-une.
Jean Genet, un homme qu'elle avait connu et dont elle parlait sans gêne de la crudité de ses paroles.
Il était drôle, il aimait la plaisanterie, il était généreux et cruel. C'était un voyou et c'était un plaisir que d'être avec lui.
J'avais dans l'idée de faire l'intégrale du condamné à mort sans savoir, en attendant que ça mûrisse. Et quand j'ai vu Jeanne, ça me paraissait évident que c'était avec elle. Enfin, il y a eu une espèce de spontanéité, une fulgurance comme ça. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit oui tout de suite.
Alors avec Étienne Dao, Jeanne Moreau parlait sur la musique, mais la voix de Moreau restera aussi dans notre oreille grâce aux chansons comme Le Tourbillon, bien sûr, La Mémoire qui flanche. Dès Jules et Jim, elle n'hésite pas à chanter dans les films, comme avec Brigitte Bardot où elle fait un duo extraordinaire avec Les Petites Femmes. Et puis sa voix se prêtait particulièrement à l'univers de Marguerite Duras, bien sûr, de qui elle était très proche. Une voix traînante, captivante, mystérieuse, comme dans India Song.
Chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me
Alors, vous l'avez dit, la carrière de Jeanne Moreau aussi aura été très prolixe au théâtre. Là où, en fait, où tout avait commencé, où elle revenait régulièrement, il ne faut pas oublier qu'elle avait été engagée en 47 par un certain Jean Villard. Puis, elle était entrée à la Comédie Française, qu'elle quittera en 1951 après avoir fait sensation dans les caves du Vatican. Et quand elle a quitté cette prestigieuse maison, elle sera aussi l'interprète de La Servante Zerline, qu'elle reprendra très régulièrement, ou bien sûr, du Journal d'une femme de chambre. En 74, c'est La Chevauchée sur le lac de Constance de Peter Hanke. Jeanne Moreau, c'était aussi de grands moments de télévision, ne l'oublions pas non plus, avec Les Misérables de Victor Hugo ou Les Rois Maudits de Maurice Druon, réalisé par José Dayan. En fait, Jeanne Moreau a toujours su rendre proches les grands textes ou les textes les plus difficiles à un public qui, en fait, l'a toujours suivi, même dans les moments les plus difficiles.
Et Jeanne Moreau, dont le corps sans vie a donc été trouvé ce matin à son domicile parisien par sa femme de ménage. Sa sensualité, on l'a dit, avait fasciné les plus grands réalisateurs, Wells, Buñuel, Antonioni, Lauzet et Truffaut, qu'il avait donc fait tourner dans ce légendaire Jules et Jim dont vous parliez, Jacqueline, et dont tout le monde connaît la chanson Le Tourbillon.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
Jeanne Moreau, sa vie, son œuvre, on y revient dans une édition spéciale à partir de 13h30 et jusqu'à 14h.
France Inter, Yves Decamp.
Le trafic a repris doucement en gare Montparnasse à Paris après un dimanche très compliqué. Une panne de signalisation a obligé la SNCF à interrompre le trafic hier matin en plein week-end de chassé-croisée avant de le rétablir en partie dans l'après-midi en déroutant de nombreux trains vers Austerlitz ou Massy dans l'Essonne. Ce matin encore, seuls 3 TGV sur 4 ont pu circuler, accusant parfois jusqu'à 20 minutes de retard. Et donc encore de la patience pour les voyageurs, j'imagine, à Montparnasse, Laura Lavenne.
Oui, parce que tout évolue continuellement. Le nombre de trains supprimés augmente. Ça concerne désormais Rennes, Nantes, Brest ou encore Bordeaux. C'est là que Nadia doit se rendre.
J'habite à Bordeaux. Je me retrouve en galère avec mes deux enfants, tout simplement. Et j'ai nulle part où aller. Et les chambres d'hôtel, ça coûte très cher.
On vous dit quoi quand vous demandez
hein? À rien, qu'il faut patienter. Donc je vais m'installer dans la gare avec mes deux enfants et je vais patienter jusqu'à 16h, voir s'il y a un train qui part. Et s'il n'y en a pas, bah, je passerai la nuit à la gare. Toute seule, à la rigueur, bon, bah, j'attends, mais là j'ai mes deux enfants et c'est juste pas gérable. Voilà.
D'autres trains ont été détournés sur la gare d'Austerlitz. Le plus souvent, les informations sont données au compte-gouttes dans des haut-parleurs. Anna s'est résignée à attendre, un peu confuse.
Pour l'instant, il n'est pas affiché. Et les agents de SNCF disent qu'ils ne peuvent pas nous communiquer aucune information pour l'instant. Je pense qu'ils peuvent un petit peu mieux informer parce que l'information qu'on reçoit sur l'Internet et par les messages est différente de ce qu'on voit à la gare.
Les trains continuent à circuler en nombre limité, 3 sur 4 jusqu'à ce soir 22h. Le trafic sera ensuite totalement interrompu jusqu'à 6h demain pour tenter de résoudre la panne.
Laura Lavenne à la Montparnasse avec Benjamin Chauvin. La SNCF prévoyait en revanche un trafic normal pour les TER, les Transiliens, mais elle fait état sur son site de lignes également perturbées. Bref, comme l'a dit ce matin la directrice générale d'SNCF Voyageurs, Rachel Picard, les conditions ne seront toujours pas idéales ce lundi, c'est un euphémisme. Le mieux, ce serait de reporter son voyage, si possible, à demain, d'autant que l'origine de cette panne reste inconnue. Une panne de signalisation à hauteur de Vanves sur un système d'aiguillage, apparemment. Mais où précisément, pourquoi, comment ? Réponse de Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF. Il est au téléphone de Géraldine Allot.
Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Effectivement, en fait, vous avez 17 armoires électriques avec des câbles connecteurs et des fils électriques qui déterminent le système d'aiguillage et de signalisation à Vanves pour la gare Montparnasse. Donc nous sommes en train, effectivement, d'investiguer et de voir quelle est l'origine. Ça peut être ce câble connecteur, ça peut aussi être autre chose. L'origine de cette panne n'est pas encore connue, parce qu'il faut savoir qu'en fait, en période d'exploitation, c'est-à-dire pendant la journée, il n'est pas possible d'accéder au poste d'aiguillage, puisqu'il sert effectivement à aiguiller quand même une partie des trains. Et donc, en réalité, les investigations et les causes seront déterminées pendant la nuit. Donc il y a eu la nuit dernière, qui a été assez courte, parce que nous avons mis l'accent sur les voyageurs, donc les gens sont arrivés jusque tard dans la nuit. Et cette nuit, nous comptons effectivement passer du temps à investiguer les causes pour faire en sorte, nous l'espérons, que demain le trafic puisse être rétabli de manière normale, nous l'espérons.
Voilà, la SNCF qui a décidé de rembourser les voyageurs ayant subi des retards de plus de 4 heures. Ils seront intégralement remboursés par cette mesure, ajoute également Mathias Vichra. Nous souhaitons marquer le coup et présenter nos excuses. Invité de ce journal, l'ancien député maire de Caen, Philippe Duron, auteur de nombreuses études sur les transports et notamment le ferroviaire. Bonjour Philippe Duron.
Bonjour.
Vous serez d'ailleurs auditionné demain à l'Assemblée nationale, je crois, sur le financement du réseau ferré, justement.
Sur le financement des infrastructures.
Des infrastructures.
Plus largement.
Alors, une simple panne de signalisation et tout le réseau Montparnasse est bloqué. Comment en est-on arrivé là ?
Plusieurs explications. D'abord, on ne connaît pas tout. D'après ce que vous avez dit, monsieur Pichera, tout à l'heure, on n'a pas encore complètement diagnostiqué le problème. Mais, si vous voulez, on est dans un transport de masse. Et quand il y a un incident, eh bien, ça a des répercussions considérables sur un nombre de voyageurs très très importants. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est assez inévitable. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, pendant très longtemps, on a négligé le réseau classique au profit de la priorité donnée au LGV. Et bien évidemment, cela a fragilisé le réseau et aujourd'hui, il est nécessaire de remettre un investissement considérable pour la remise à niveau de ce réseau secondaire et de ce réseau même magistral, mais qui n'est pas le réseau LGV. On est passé depuis 2013 d'1,7 milliard d'euros par an pour ce qu'on appelle la régénération. On va passer à 3 milliards en 2020. Est-ce suffisant ? Peut-être pas, mais ça génère beaucoup de chantiers, c'est-à-dire aussi des perturbations pour les usagers.
Alors ça veut dire, Philippe Duron, qu'il faudrait lever le pied sur les LGV, les lignes à grande vitesse, et consolider le réseau existant, c'est-à-dire investir massivement en Île-de-France.
En Île-de-France et dans le reste du pays, monsieur. Vous savez, actuellement, la ministre disait il y a quelques jours qu'il y avait plus de 5200 kilomètres de ralentissement en France, c'est-à-dire des secteurs du réseau où il y a ou bien des fragilités ou bien des travaux. Et cela, c'est vrai aussi bien en Île-de-France, mais en PACA, on a un réseau qui est extrêmement très fragile.
Mais c'est en Île-de-France que ça bloque, parce qu'il y a aussi tout le réseau transilien, bien sûr.
Et tout à fait. En Île-de-France, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de voyageurs chaque jour. C'est là qu'il y a le plus gros trafic, bien évidemment. Et lorsqu'il y a un incident, ça prend des proportions qui sont considérables.
Alors, qui doit payer ? Les usagers ? Les contribuables ?
Eh bien écoutez, pour l'instant, c'est une grande partie des contribuables qui payent. Bien évidemment, les usagers payent aussi au travers de la SNCF. Mais également, bien évidemment, on a d'autres modes de financement qui peuvent être mis en place aujourd'hui. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on va investir dans les 10 ans 46 milliards sur les réseaux et sur les technologies de la SNCF. C'est des sommes absolument considérables. Mais il faut savoir que ce ne sont pas uniquement les usagers du transport ferroviaire qui payent. Vous le savez, une grande partie du financement des infrastructures en France est financée par le réseau routier et autoroutier. Ce sont les taxes qui pèsent sur les autoroutes, ce sont également les taxes, les amendes radars qui contribue à financer une partie de cette régénération.
Et dans ces conditions, j'imagine qu'on va remettre sur la table le débat sur la privatisation ?
Le débat sur la privatisation ne porte pas sur l'infrastructure. Tentative de privatiser l'infrastructure n'a été concluante. Les Anglais qui avaient privatisé leur infrastructure l'ont étatisé par la suite. Et la privatisation joue pour le transport des voyageurs, c'est autre chose.
Philippe Duron, ancien député-maire de Caen, auteur de nombreuses études sur les transports et notamment le ferroviaire. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Bon après-midi.
Merci. Elle aussi a été auditionnée par les députés. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, faisait le point ce matin sur son projet de réforme du Code du Travail, dont la première phase de négociation est maintenant terminée. Le texte qui sera passé par ordonnance fin septembre doit être encore précisé sur de nombreux points. Laurent Kramer, on a un peu de mal à s'y retrouver. Alors, qu'est-ce qui a déjà été acté ? Un barème pour les prud'hommes, notamment.
Oui, les indemnités obtenues devant le prud'homme. Les prud'hommes, pour réparation d'un préjudice, les dommages et intérêts, donc après un licenciement abusif, seront bien barémisés et appliqués de façon obligatoire par le juge des prud'hommes, avec pour seule dérogation les cas de discrimination et de harcèlement. Ce sont des dérogations obtenues par les syndicats. Autre promesse du candidat Macron que le gouvernement va mettre en œuvre à la rentrée, la fusion des instances du personnel dans les entreprises de plus de 55 salariés, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le CHSCT fusionneront en une instance unique. Le CHSCT serait néanmoins obligatoire au-delà d'un certain nombre de salariés.
Alors, quels points restent à débattre ? Quels sont les points de friction, autrement dit ?
Alors, ils sont beaucoup plus nombreux. Les arbitrages seront faits par Matignon et par l'Élysée pendant l'été. Question qui fâche les syndicats, faut-il laisser dans les TPE, les très petites entreprises, et dans les PME, le chef d'entreprise négocier directement par référendum avec ses salariés ? C'est un sujet explosif. Le mandatement syndical, qui ne fonctionne pas aujourd'hui, serait maintenu, mais le patronat veut au minimum pouvoir négocier l'organisation du temps de travail par référendum sans intervention syndicale extérieure dans les entreprises de quelques salariés. Autre sujet qui fâche, le montant donc de ces indemnités aux prud'hommes. Ce barème obligatoire devant les prud'hommes, le gouvernement parle pour l'instant d'un mois par année d'ancienneté sans aucun plancher. Contrepartie à cette réforme, rejetée par l'ensemble des syndicats, la promesse du gouvernement d'augmenter dans le même temps les indemnités légales, cette fois de licenciement pour tous les salariés. Les syndicats voudraient qu'elle soit doublée. La ministre renvoie sa décision à la rentrée.
Alors quel est le calendrier maintenant ?
Alors les arbitrages et les ordonnances sont rédigés pour le 21 août, présentés aux partenaires sociaux pendant toute une semaine, pour être ensuite envoyés notamment devant le Conseil d'État dès le 28 août, en vue d'être adoptés en Conseil des ministres le 21 septembre ou autour du 21 septembre, avec donc une parution au Journal officiel pour application immédiate dans la foulée.
Les migrants de Calais ont droit à des points d'eau. Le Conseil d'État a rejeté ce matin les appels du ministre de l'Intérieur et de la mairie de Calais qui contestaient une décision du tribunal administratif de Lille, lequel, à la demande des associations de défense des migrants, avait enjoint au préfet du Pas-de-Calais et au maire de Calais de mettre à disposition des points d'eau permettant aux migrants un minimum d'hygiène. Pour le Conseil d'État, il n'y a pas de doute sur ce point. Les conditions de vie des migrants à Calais révèlent une carence des autorités publiques, Corinne Audouin.
Oui, les mots du Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative sont en effet cinglants. Les conditions de vie des migrants révèlent une carence des autorités publiques de nature à exposer les personnes concernées à des traitements inhumains ou dégradants. Ce sont les mots de l'arrêt rendu ce matin. Alors depuis l'évacuation des campements de Calais en 2016, plusieurs centaines de migrants sont en effet revenus sur le territoire de la commune. En juin dernier, ils étaient entre 400 et 600 selon le défenseur des droits, dont une centaine de mineurs. Alors dans son en arrêt, le Conseil d'État constate leur état de dénuement et d'épuisement, l'absence d'accès à des points d'eau, à des douches ou des toilettes, un manque d'hygiène qui entraîne des pathologies comme la gale, l'impétigo, des plaies infectées ainsi que des souffrances psychiques. Alors la juridiction administrative ne se prononce pas sur la politique du gouvernement envers les migrants, ce n'est pas son rôle, mais elle valide les mesures d'urgence ordonnées par le juge des référés de Lille, créer des points d'eau et des toilettes à l'extérieur du centre-ville, organiser l'accès à des douches, prendre en charge les mineurs isolés et enfin organiser des départs vers les centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire. Le gouvernement et la commune ont 10 jours pour obtempérer.
Et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, réagira cet après-midi dans une conférence de presse. L'agresseur de Lauriane Rossi, la députée La République En Marche, toujours en garde à vue. Il devrait être jugé cet après-midi en comparution immédiate. Retraité de 63 ans, inconnu des services de police. Il a dit regretter son geste. Il avait frappé la députée d'un coup de poing dans la tempe hier matin sur un marché de Bagneux dans les Hauts-de-Seine avant de s'enfuir, aussitôt rattrapé par les passants et les commerçants du marché. Au Venezuela, le président Maduro crie victoire au lendemain de l'élection d'une assemblée constituante dont l'opposition ne voulait pas. Son appel au boycott a été en partie entendu d'ailleurs, puisqu'on parle ce midi d'une participation de 41,5%, soit 8 millions d'électeurs, suffisant apparemment pour le président vénézuélien qui fait fi des condamnations internationales et des manifestations sanglantes qui se succèdent. 10 morts encore ce week-end. Alors, que peut-il maintenant se passer, Bertrand Galichet? Comment sortir de ce cycle manifestation-répression?
Eh bien, c'est une question urgente pour une population épuisée par les violences, les grèves générales et les pénuries alimentaires. Pour le journaliste François-Xavier Frelan, ancien correspondant au Venezuela et auteur du livre « Qui veut la peau d'Hugo Chavez ?», les opposants au régime chaviste de Nicolas Maduro sont à la croisée des chemins.
Ou bien l'opposition fait entendre sa voix auprès de pays qui vont entrer dans une médiation. C'est très compliqué. Les États-Unis, il en est presque hors de question. Maduro considère que l'Amérique est derrière le complot contre son régime. Cuba, il n'en est pas question, puisque les opposants accusent Cuba d'être derrière le Venezuela. Donc il leur reste peut-être l'Union européenne, la France notamment, qui est un pays modérateur. Et puis, il leur reste évidemment la rue, les manifestations qui vont se durcir sans doute face à une répression très violente de la part de la police et des autorités.
Une répression qui a pour effet de souder et de renforcer l'opposition à Nicolas Maduro, mais ce bras de fer risque de durer longtemps, à moins que la confiance de l'armée dans le régime ne vacille. La question est de savoir si les militaires qui jusqu'à présent soutiennent le pouvoir bec et ongle finiront par le lâcher sous la pression internationale. Dans un pays rongé par la corruption, des retournements d'alliances sont possibles. L'élection de l'Assemblée constituante, dotée d'immenses pouvoirs, permettra à Nicolas Maduro de gagner du temps et peut-être d'éviter une présidentielle prévue fin 2018.
En Russie, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Vladimir Poutine n'a pas aimé le nouveau train de sanctions décidé par les Américains contre son pays, en conséquence bien sûr de la crise ukrainienne essentiellement. Il a fait savoir que 755 membres du corps diplomatique américain en poste en Russie devraient avoir quitté le territoire en septembre. Pour le président russe, cette attitude hostile de Washington ne fait qu'aggraver les tensions à Moscou. Jean-Didier Revoin.
Plus d'un millier de diplomates américains travaillent actuellement à l'ambassade ou dans les différentes représentations consulaires des États-Unis en Russie, a déclaré Vladimir Poutine sur une chaîne de télévision publique. Cela signifie que 755 d'entre eux devront cesser leurs activités dans le pays, a laissé entendre le président russe. En représailles aux nouvelles sanctions américaines contre Moscou, le Kremlin avait annoncé qu'à partir du 1er septembre prochain, seuls 455 diplomates américains seraient autorisés à travailler en Russie, soit un nombre identique à celui des diplomates russes habilités à exercer sur le sol américain. Le chiffre est important pour la simple raison que Moscou veut veut envoyer à Washington un signal fort dont les répercussions seront, à n'en pas douter, moins graves que si le Kremlin avait mis en place des représailles économiques. Après 2 années de récession, 2017 devait être l'année du retour de la croissance pour l'économie russe et les autorités cherchent par-dessus tout à la préserver. Le pouvoir a besoin d'une économie dans le vert à quelques mois de la présidentielle de mars prochain. Il veut éviter à tout prix que des mouvements de contestation populaire viennent perturber la campagne, même si Vladimir Poutine n'a pas encore annoncé sa candidature. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
En foot, elles ont perdu et maintenant, les Bleus ont payé hier soir leur manque d'efficacité face aux Anglaises, plus réalistes, et qui les ont stoppées 1-0 en quart de finale de l'Euro. Ces quarts de finale que les Françaises n'ont jamais franchi dans aucune compétition. Il doit y avoir un problème quelque part, un problème que n'a pas identifié en tout cas le sélectionneur, Olivier Échouafny, qui s'est dit déçu non pas par son équipe, mais par la qualité du jeu de nos adversaires. Sic, à 2 ans de la Coupe du Monde des féminines, qui se disputera en France, en tout cas, Bertrand Queneau, note, il y a de quoi s'interroger.
Et oui, Yves s'interrogeait notamment sur le sélectionneur lui-même, car Olivier Échouafny avait beau être soutenu par certaines de ses joueuses hier soir, il avait beau rappeler que son équipe était invaincue avant ce match et depuis sa prise de fonction en septembre 2016, il n'en demeure pas moins que sur cet euro, le sélectionneur n'est pas parvenu à faire jouer son équipe correctement, une équipe dont certains se demandent même si elle n'a pas régressé, car si l'an dernier aux Jeux Olympiques, la France est aussi sortie en quart de finale, elle n'avait pas fait si pâle figure, incapable aujourd'hui de battre des nations comme la Suisse et l'Autriche et malmenée par l'Islande. Incapable aussi, et malgré la présence de 8 internationales ayant participé à la dernière finale de la Ligue des Champions entre l'OL et le PSG, de marquer le moindre but sur une phase de jeu. Ainsi, à 2 ans de la Coupe du Monde dans l'Hexagone, beaucoup s'accordent à dire que ce revers est une contre-publicité. Le sélectionneur à qui il reste un an de contrat martèle quant à lui que son groupe connaît une période de transition et qu'il va falloir du temps, mais pas sûr que cet argument convainque le président de la Fédé, Noël Le Graët, qui avait fixé comme objectif d'atteindre au moins le dernier carré.
Bertrand Queneut, 13h31 sur France Inter.
France Inter, édition spéciale.
Édition spéciale consacrée à Jeanne Moreau, morte ce matin à l'âge de 89 ans. Elle a été retrouvée par sa femme de ménage à son domicile parisien. Actrice à la beauté sensuelle et à l'inimitable voix grave, Jeanne Moreau avait fasciné les plus grands réalisateurs au cours d'une carrière de 65 ans, 130 films. Elle avait débuté au théâtre à Avignon en 1947. Elle avait 89 ans, Jeanne Moreau. En ligne avec nous, Serge Toubiana, président d'Unifrance, ex-directeur de la Cinémathèque. Bonjour.
Bonjour.
Si vous deviez définir Jeanne Moreau.
Ah, oui.
Oui, artiste iconique, iconoclaste, comme a dit Jack Lang, par exemple.
C'est vrai, elle avait un tel goût de la liberté qu'elle bousculait même l'idée même d'être star et d'être une vedette. C'est-à-dire qu'elle l'était et en même temps, elle était au-delà de ça, elle était au-dessus de ça, elle était souveraine. J'ai rarement vu une personnalité aussi, souveraine, ouais. Je me souviens que Truffaut disait d'elle à propos de Jules et Jim, elle est prestigieuse. C'est vrai que quand on repense à Jules et Jim, que j'ai revu et que je connais par cœur, on a le sentiment du prestige. Elle incarne, elle rayonne, elle est la lumière, elle est belle, elle domine les autres personnages. Ils sont à ses genoux, ils sont amoureux, ils sont fous d'elle. Et je crois qu'elle a été comme ça avec les cinéastes aussi. Ils l'ont aimée, quoi.
Et en même temps, elle était très respectueuse de tous ses collègues. Beaucoup d'humilité.
Bien sûr, comme tous les grands acteurs, les grandes actrices, les grands cinéastes, les grands artistes ont cette humilité. Pensez à Picasso, pensez à Wells. Wells, qui était son ami, Wells a tourné avec elle dans Le Procès, puis un film qu'on n'a jamais vu, The Dead. Il était ami avec Jeanne Moreau parce qu'elle incarnait à la fois la France, la culture française, la langue française et puis le panache, voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'elle a tourné avec les plus grands, Buñuel, Antonioni, Truffaut, Malle, Oliveira, et j'en passe, Kazan, Fassbinder, Sanders.
Et justement, quelle scène vous retiendriez en priorité parmi tous ces films?
Moi, je trouve qu'il y a le film qui a tout déclenché, en fait, c'est le film de Louis Malle, c'est Ascenseur pour l'échafaud. Quand on regarde encore ce film avec la musique de Miles Davis, qu'on voit cette femme errer dans les rues de Paris, vers les Champs-Élysées, dans la nuit, jamais on n'avait filmé une vedette comme cela, si vous voulez. Jamais on avait, avec si peu de lumière, si peu d'éclairage, si peu de maquillage, si peu de... de choses qui rendent factice, si vous voulez, le cinéma. Là, on avait le sentiment de la vérité, quoi. Et que Luimal a filmé Jeanne Moreau, qui a alors 32 ans, vraiment une grande vedette, il l'a filmé de la façon la plus vraie, quoi. Et ça a déclenché, ça a bousculé l'histoire du cinéma. Et elle a aimé ça. Elle l'a encouragé à aller vers la liberté. Et elle a fait la même chose avec Truffaut pour Jules et Jim. Et elle a fait la même chose avec Antonioni, avec Jacques Demy, et avec tous les cinéastes, les grands cinéastes avec lesquels elle a tourné. Elle leur a apporté ce goût de l'audace, parce qu'elle-même n'avait peur de rien. Je crois que c'est ça, Jeanne Moreau.
De l'audace, elle nous l'a dit tout à l'heure dans cet extrait que nous avons diffusé au début du journal. De l'audace et jamais ne se soumettre, disait-elle.
Jamais. Elle était souveraine, elle était libre. Je pense qu'elle a eu une enfance difficile. Vous savez qu'elle est de mère anglaise, son père était un bougnat dans Paris, elle a connu la guerre, l'occupation, les horreurs de l'occupation. Je pense que ça l'a émancipée. L'émancipation, c'est quelque chose d'irréversible. Et ce goût de la liberté qu'elle avait au théâtre comme au cinéma, son amitié avec Duras, son amour de la langue, tout cela, ça a créé un personnage qui ne pouvait pas revenir en arrière. Et moi, quand je l'ai connue, j'étais très intimidé par elle, parce qu'elle avait cette souveraineté de la langue, cette souveraineté de l'art qu'elle incarnait. Et moi, je me sentais comme un petit garçon devant elle. Et souvent, elle se fâchait. Hein, elle se fâchait. Et la seule manière pour moi de me réconcilier avec elle, quand je dirais la Cinémathèque, c'était de lui faire une jolie lettre. Mmh. Elle tombait sous le charme. Elle aimait qu'on lui écrive des belles lettres parce que la langue, ça réconcilie tout le monde. Voilà.
Eh oui. Restez avec nous quelques instants, Serge Toubiana, si vous le voulez bien. Eva Bétan nous a rejoint au téléphone également. Bonjour Eva.
Bonjour.
Bon, ce matin, vous êtes en deuil, j'imagine. Vous, la spécialiste du cinéma de France Inter.
Oh, c'est un sentiment très particulier qui est que... il y a à la fois, il reste la puissance de la personne. Oui, on sait qu'elle a disparu. Et en même temps, il dégage quelque chose de tellement fort de Jeanne Moreau. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne peut pas l'enfermer dans une définition. Vous allez dire le charme, mais vous allez dire en même temps l'autorité. Vous allez dire l'instinct, mais vous allez dire en même temps l'intelligence. Elle vous impressionne et en même temps, elle est accessible parce qu'elle est curieuse. Il y a toutes ces oppositions qui font que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme disait Serge Toubiana, qu'on ne peut pas enfermer. Elle est une femme du cinéma d'après-guerre. Elle a commencé par le théâtre, un cinéma qui est encore corseté. Et puis, il y a un type qui arrive, c'est Louis Malle. Il est tout jeune, c'est Roger Minier qui le lui présente. On le surnomme le scaphandrier parce qu'il a tourné Cousteau. Et elle dit, oui, je pars. Et les gens lui disent, mais tu es folle, tu vas tourner pas maquillée comme ça en éclairage naturel. Elle le fait. Mais après, elle se laisse pas enfermer par la nouvelle vague. Et pourtant, elle retourne avec Louis Malle, elle tourne avec Truffaut. Elle a des fidélités successives. Elle n'est pas infidèle. Elle est plusieurs fois fidèle. Il faut voir que c'est quelqu'un qui tourne avec des gens, si vous regardez sur le papier, c'est des cinéastes écrasants. Orson Welles, Buñuel, je prends les grands étrangers, Antonioni, mais ils la choisissent parce qu'elles ne peuvent pas être écrasées. Il y a une chose qui me frappe aussi quand on voit la durée, on dit 65 ans, 67 ans de cinéma, mais elle est toujours au présent parce qu'il y a une sorte d'instinct qui fait qu'elle va entrer dans le fantasme de metteurs en scène puissants. Or, ces fantasmes, ils correspondent à une réalité. D'une certaine manière, elle est la femme moderne dans ses films, avant même que n'explose le féminisme. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a quelque chose de très profond dans le lien qui, je dirais, pas seulement les spécialistes du cinéma, les cinéphiles, qui lient les Français à quelqu'un comme Jeanne Moreau. Parce qu'elle est dans notre histoire. Elle est dans une histoire moderne de la France. Et c'est ça que je trouve très fort et très puissant.
Elle était la femme moderne qui n'hésitait pas à prendre des risques, à évoluer avec son temps. Et on l'avait vu dans les valseuses, notamment de Bertrand Blier, dans un rôle à la Blier. Bertrand Blier qui, ce matin, lui rend hommage, bien sûr.
Je pensais à elle et je pensais à ma jeunesse. Et à ce qui s'est passé le jour où le visage de Jeanne Moreau est apparu dans la société française. Parce qu'avant, on la connaissait peu. On savait que c'était une bonne actrice de théâtre, mais un jour, elle a fait Ascenseur pour l'échafaud. Et du jour au lendemain, tout le monde a vu le visage de Jeanne Moreau sur les journaux partout, comme un nouveau visage, c'est-à-dire une nouvelle femme, un nouveau prototype de femme. Elle a apporté une tonalité que les femmes se sont empressées d'adopter, de la même manière que le jour où Jean-Paul Belmondo est arrivé. Ça a été un événement esthétique, c'était pas l'acteur, c'était sa gueule qu'on voyait. Et Jeanne, leurs apparitions ne doivent pas être très éloignées dans le temps. Donc Jeanne, à ce moment-là, était une femme dont on disait « c'est pas possible, elle a des cernes, on ne peut pas mettre une femme comme ça au cinéma ». Mais enfin, tout le monde l'aimait quand même.
Voilà, Bertrand Blier qui a fait tourner Jeanne Moreau dans Les Valseuses. Serge Toubiana, ça aussi, c'est une scène mythique qui restera, Moreau dans Les Valseuses.
Bien sûr, le film aussi, il va rester. Mais oui, mais elle avait l'audace de rejoindre Blier, qui est un cinéaste comme ça, un petit peu impétueux et qui a pas peur de la langue et qui a pas peur des mots. Elle était en terrain de connaissance. Donc pour elle, il y avait, si vous voulez, c'est tout à fait naturel qu'elle ait fait cette scène dans Les Valseuses. Comme c'est naturel qu'elle ait tourné avec Jean-Pierre Mocky, si vous voulez, dans Le Miraculé. Ça ne lui fait pas peur. Elle n'avait pas. Elle passait au-dessus des clichés, au-dessus des clans, au-dessus des cabales, parce que elle était beaucoup plus libre que n'importe qui. Voilà, elle avait ce goût de la liberté qui l'a autorisé à tout faire.
Voilà, pas peur de prendre des risques. Eva Bettan, c'est ça qu'on retient aussi, son audace dans le choix de ses rôles.
Mais même dans sa manière d'être, ce n'était pas. Elle avait signé l'appel des 343. C'est un texte important. C'était au moment où l'avortement était interdit. C'est des femmes qui disaient j'ai avorté même si elle ne l'avait pas fait. Mais en même temps, ce n'était pas pour autant une militante. Elle était de son temps. Sa manière de militer entre guillemets, c'était de se tenir droite et d'être en cohérence avec elle-même. Donc il y a cette idée d'une femme qui est profondément libre, qui par moments a joué des rôles scandaleux quand elle joue les amants, quand elle joue Julie Jim. C'est un scandale pour l'époque. Mais vous n'allez pas l'enfermer dans le rôle de la scandaleuse, comme vous n'allez pas pouvoir l'enfermer dans Icône de la Nouvelle Vague. Ça va pas. C'est des mots qui vont pas pour elle. C'est une immense actrice. Oui, c'est... Et encore... En même temps, dire c'est une star, ça va pas, c'est elle, c'est Jeanne Moreau. Elle avait une sorte de tenue, quand elle dit tout à l'heure, dans l'extrait d'interview qu'on a entendu, « Oui, j'ai une voix, mais ce serait un peu indécent d'en jouer. » Tout en elle est là. C'est elle sait qu'elle est entrée vivante dans l'histoire du cinéma, mais elle va pas en jouer. Elle va pas s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'une actrice peut, sur plus d'un demi-siècle, susciter le désir. C'est pour ça que des jeunes cinéastes peuvent venir vers elle. C'était aussi une chose qui est très, très importante. Une grande lectrice. J'avais eu la chance d'aller faire une émission chez elle, c'était la bibliothèque de Jeanne Moreau. Et on s'était promené dans son appartement, plein de livres. Et c'est pas l'appartement d'une star, c'est l'appartement d'une femme qui vit, qui aime le thé, qui rit et qui a des livres partout et qui vit avec les livres. C'est une femme qui aimait les mots. D'une certaine manière, les mots l'ont sauvée. Serge Toubiana parlait tout à l'heure de ses origines. Quand elle découvre, la révélation c'est quand elle voit Antigone au théâtre, alors que son père ne voulait pas qu'elle soit comédienne. La révélation, c'est une insoumise. Elle disait d'elle-même, je suis une insoumise. Marguerite Duras, qui a été sa grande amie, disait d'elle, elle a une force inouïe. Oui, mais une force cachée dans une grande douceur. C'est toutes ces oppositions qui font la personne. C'est que vous ne pouvez pas vous arrêter à un adjectif.
Serge Toubiana, pour en résumé, si on voulait raconter l'histoire du cinéma à un jeune d'aujourd'hui, on parlerait de Jeanne Moreau. C'est toute la palette du cinéma français et européen.
Ah oui, mondial. On prendrait sa filmographie un par un depuis. La Reine Margot de Jean Dréville, Touchez pas au Grisby de Becker, et puis on arriverait à Luhmann, à Truffaut, à Wells, à Antonioni. On déclinerait l'histoire du cinéma au XXe siècle, mais aussi au XXIe, parce que elle n'a jamais cessé. Elle a fait beaucoup de séries télévisées avec José Daillon, entre autres. Elle n'a jamais arrêté. Elle a commencé au théâtre. Elle est revenue au théâtre. Le théâtre l'a sauvée une deuxième fois avec la Servante Zerling. Voilà, donc c'est oui, tout le cinéma défile et tout le cinéma est sur l'écran grâce à elle, quoi. Donc le cinéma libre, c'est magnifique. Il y aura sans doute un jour une place Jeanne Moreau, un square Jeanne Moreau, j'en sais rien.
Ah bah oui, il faut
espérer. Mais une rue, j'espère. Enfin, le mérite. Mais au-delà de ça, c'est voilà, il y a dans toutes les vidéothèques de tous les cinéphiles du monde entier, il y a Jeanne Moreau. Elle est là, elle est indestructible, quoi. Indestructible.
Merci beaucoup, Serge Toubiana, président d'Unifrance, ex-président de la Cinémathèque. Jeanne Moreau, dont on a dit qu'elle avait fait du cinéma, du théâtre, mais elle était aussi chanteuse.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appelé par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Jeanne Moreau, la mémoire qui flanche, c'était en 1963. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Vous avez adapté le journal d'une femme de chambre, notamment le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau pour Buñuel, l'un des grands rôles de Jeanne Moreau. Qu'est-ce que vous retiendrez d'elle?
Oui, c'est la première fois que je travaille avec elle, mais je l'ai connue toute sa vie, jusqu'à il y a encore 3 ou 4 ans. On était amis, et dans le journal d'une femme de chambre, je raconte assez souvent cette histoire. Elle vient me voir un jour et elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe avec Louis Buñuel, il ne me dit rien. Il ne me donne aucune indication de jeu, comment ça se fait. Il me dit, vous ouvrez la porte, vous faites 3 pas, vous revenez, vous... Et c'est tout ce qu'il me dit. J'ai l'impression que, me dit-elle, qu'il n'aime pas du tout ce que je fais. Alors, comme d'habitude, je sers d'intermédiaire, je vais voir Louis, je lui dis ça, et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Elle m'apprend des choses sur le personnage. Ouais, et ça, c'est la chose la plus belle qu'un grand metteur en scène puisse dire à un comédien ou à une comédienne.
Orson Welles lui disait d'elle qu'elle lui faisait tourner la tête.
Oui, on peut dire ça, mais vous voyez, aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà du script, au-delà même de ce que le metteur en scène a imaginé, et apporter quelque chose de plus à un personnage, ça évidemment, ce n'est donné qu'aux très grands comédiens dont elle faisait partie.
Alors, oui, est-ce que vous diriez qu'elle était, d'abord une femme de théâtre, malgré tout?
Elle a commencé, elle était très connue, elle a été à la Comédie Française, enfin on l'a rappelé, et quand elle était à la Comédie Française, elle était déjà une star, puisqu'on a monté la Reine Margot sur elle, de Jean Dréville. Mmh. Mais elle n'était pas encore Jeanne Moreau. Elle a dit elle-même, et je l'ai dit plusieurs fois, elle l'a dit en particulier, mais je ne suis pas le seul, qu'elle a été Jeanne Moreau le jour où elle a eu les yeux cernés. C'est-à-dire qu'il y avait, dans sa fatigue post-amoureuse sur son visage, quelque chose qui a fait d'elle Jeanne Moreau. Et ça, c'est venu avec Ascenseur pour l'échafaud et avec Jules Gim. C'est venu avec La Nouvelle Vague. À partir de ce moment-là, elle a réussi, en étant la star de La Nouvelle Vague, évidemment, à en sortir. À aller tourner en Italie, à aller tourner avec Dozier, enfin, à faire toute une série d'autres films qui lui ont permis de durer. Ce n'est pas une comédienne dont la vie s'est limitée à une dizaine d'années de flamboyance. Et pas du tout. Elle a tenu très longtemps. Et je vais vous dire ce qu'elle m'a fait il n'y a pas très longtemps, il y a 7 ou 8 ans. Nous avions eu, après le journal d'une femme de chambre, avec Buñuel, le projet de monter avec elle Le Moine de Monclewis. Oui. Le fameux roman qui a hanté les surréalistes, que Antonin Artaud avait traduit, etc. Et Jeanne Moreau avait le rôle principal. Pour des raisons X, le film ne s'est pas fait. Pour des raisons de production, essentiellement. Il y a... 35 ou 40 ans plus tard, il y a de cela 7 ou 8 ans, alors qu'elle était présidente du Festival d'Angers, du Festival du premier film. Elle m'appelle et elle me dit « Tu as encore le scénario du Moine ?» Mais je lui dis « Oui, je crois, oui. Pourquoi ?» Parce que j'aimerais en faire une lecture publique. Et alors, je suis allé à Angers, évidemment, j'en pleurais presque d'émotion, parce qu'elle était là devant une salle comble, évidemment, en train de lire tout simplement le scénario qu'elle n'avait pas tourné. Et oui. Mais de lire tous les rôles, toutes les indications, de jouer tous les personnages, c'est passé d'ailleurs à la radio une ou deux fois, mais c'était absolument bouleversant. Vous voyez qu'elle n'avait pas oublié, tant d'années après, ce rôle à côté duquel elle était malheureusement passée, mais qui lui revenait de cette manière en s'appropriant tout le scénario.
L'amour des textes, l'amour des mots, ouais. C'était une littéraire et elle avait et elle avait l'esprit de découverte. Vous, Jean-Claude Carrière, même question qu'à Serge Toubiana tout à l'heure, quels sont les films que vous retiendrez, les scènes surtout que vous retiendrez?
Écoutez, moi je n'ai pas de scène particulière, mais Jeanne Moreau, c'est un personnage à différents visages, mais qui reste toujours Jeanne Moreau, quoi qu'elle fasse. Ouais. Mais évidemment, elle est inséparable de Julie Gim, du journal d'une femme de chambre, d'Ascenseur pour l'échafaud. Et je crois que la scène qui est muette d'Ascenseur pour l'échafaud, la fameuse scène avec la musique de Miles Davis, où elle marche dans les rues, seule la nuit, cherchant un homme qu'elle ne trouve pas et qui a disparu, ça reste un moment de cinéma extraordinaire.
Merci Jean-Claude Carrière, scénariste qu'on ne présente plus. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Mais je vous en prie avec tristesse.
Oui. Eva Bettange, je ne vous ai pas demandé, vous, quels sont les films que vous retiendrez de Jeanne Moreau, vos films préférés?
Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des bouts de films, mais partout, il y a une continuité, c'est elle. Par exemple, dans La Baie des Anges de Jacques Lemier, un film sur le jeu, il la transforme complètement. Elle est blonde, il la fait parler autrement, il la fait parler vite, et c'est Jeanne Moreau. Dans un film d'Amos Gitaille, qui s'appelle Plus tard, c'est à partir du livre de Jérôme Clément, Plus tard tu comprendras, c'est à partir d'Histoire de la mère de Jérôme Clément. Elle est une vieille dame, et elle est bouleversante. Bien sûr, on l'a dit et redit, Les Amants, il y a Les Amants de Louis Malle, il y a Ascenseur pour l'échafaud, quand vous le revoyez, mais même un film plus léger comme Viva Maria,
ah oui, Viva
ou
Maria.
Brigitte Bardot, ah oui. Vous voyez deux images de la féminité et on se dit avec le recul du temps, celle qui a tout compris, c'est Jeanne Moreau.
C'est-à-dire, pourquoi
Brigitte Bardot, elle n'aimait pas ce métier, elle l'a quitté. Jeanne Moreau, elle aimait les mots, elle aimait le théâtre, elle aimait le cinéma, elle aimait le jeu, elle aimait la culture. Et vous regardez, et c'est très intelligent de les avoir approchés. De mémoire, ça doit être en 1974, le film. Il faut vérifier la date. Mais ces deux femmes, elles rapprochées...
Viva Maria, c'est 1965.
65, pardon, je me suis trompée d'une décennie. C'est 1965, c'est deux femmes à leur apogée. 1974, je me suis trompée, c'est Bertrand.
C'est Les Valseuses. Oui.
C'est Les Valseuses. Et là aussi, là c'est une révolution. Quand arrive Blier, il bouleverse tout. C'est l'acte de naissance de Depardieu et de Vert, et elle est dedans. Et cette petite scène, pour moi, est une scène qui reste dans ma tête. Ils sortent de prison, ils rencontrent cette femme plus âgée qu'eux, ils couchent avec elle tous les deux, et elle se suicide. C'est une scène terrible, et c'est une scène qui est une partie inhérente du film. Donc je veux dire que je ne peux pas m'arrêter à une scène ou à une image. C'est la continuité, c'est sa permanence, c'est le fait que tout en ayant respecté les metteurs en scène, elle ne prenait pas le pouvoir sur les films, mais d'une certaine manière, elle était un peu co-auteur du film parce qu'elle avait apporté son équation.
Alors les metteurs en scène, justement, avec Laurent Henneman dans un instant, mais d'abord le témoignage de José Dayan qui avait fait tourner Jeanne Moreau pour la télévision, Les Misérables notamment.
J'ai connu il y a 19 ans, au moment du tournage de Balzac. C'est devenu une amie très proche. C'est une actrice majeure que j'admirais depuis toujours, depuis que j'ai aimé le cinéma, qu'elle incarnait pour moi. Et c'est une femme extraordinairement brillante et intransigeante. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là je suis très triste, quoi. Voilà. Il y a des œuvres, il y a des talents, il y a des incandescences qui font que ça dure, et heureusement.
Voilà, José Dayan qui avait fait tourner Jeanne Moreau pour la télévision. En ligne avec nous, le réalisateur Laurent Henneman, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aviez fait tourner Jeanne Moreau dans La vieille qui marchait dans la mer,
oui.
Pour un film pour lequel elle avait eu son premier Oscar, son premier César, pardon.
Absolument. Hein, oui.
C'était en quelle année c'était ?
Le tournage était en 1991, donc elle a eu le César en 1992.
Alors quel souvenir vous garderez de Jeanne Moreau ?
Ben, je voudrais dire que par rapport à tous les témoignages que j'entends, pour moi, ce qui reste de Jeanne Moreau, c'est une immense actrice au sens d'artisane du métier de comédien. C'est une femme que j'ai vue travailler sur un rôle difficile. La vieille qui marchait dans la mer était une comédie qui n'était pas son registre le plus courant et le plus connu, alors que dans la vie, c'est une fille rigolote. Hein, je dis, il faut pas, voilà. Mais c'était un spectacle, je dirais, tous les matins. Je venais l'accueillir au maquillage parce qu'elle avait 2-3 heures de maquillage pour que nous repassions ensemble le texte, pour que nous revoyions les dialogues, pour que nous reparlions du personnage. Elle faisait ce métier comme une artisane volontaire, farouche, bosseuse, et ce don absolu qu'elle avait, cette beauté absolue qu'elle avait, qui était ses atouts de départ, si vous voulez, elle arrivait à les compléter formidablement avec un travail, et c'est ça que je retiens d'elle. C'est cette comédienne qui va au très fond des choses chercher la vérité de son rôle.
Mais comment s'était passé le premier contact ? C'est vous qui l'aviez sollicité ?
Voilà, il faut que je vous dise que d'abord je la connaissais depuis 20 ans, puisque j'avais été son chauffeur sur un film d'Edouard Louns qui s'appelait L'humeur vagabonde. Et j'étais stagiaire, chauffeur de Jeanne Moreau, et elle avait une quarantaine d'années à ce moment-là, et c'était la femme libre, la femme drôle, la femme intelligente qui pouvait parler avec un intellectuel de haut vol comme avec son habilleuse, avec autant d'à-propos, si vous voulez. Et puis quand le producteur Gérard Jourduy m'a proposé La vieille qui marchait dans la mer, il était en train de se pencher sur l'achat des droits, et il savait que Jeanne voulait jouer le film, elle voulait le faire. Et donc il m'a dit qu'au moment où il m'a proposé le film où j'ai accepté, il m'a dit: qu'est-ce que tu penses de Jeanne Moreau? Et évidemment, j'ai dit oui tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation.
C'est Eva Béton, un dernier mot avant de se quitter?
Un souvenir personnel, si vous le permettez. Un jour où elle était invitée dans le journal de 13h, je la raccompagne et je lui parle d'un livre que je trouve extraordinaire qui s'appelle « Refus de témoigner » de Ruth Kluger, qui est un livre sur la déportation. 3 jours après, elle m'appelle, elle l'avait lu, et elle appelle l'éditrice Viviane Ami, qui n'était pas prévenue, et qui trouve sur son répondeur un message avec la voix de Jeanne Moreau, lui parlant de ce livre. Ça, c'était voilà le côté accessible de Jeanne Moreau. Vous lui parlez d'un livre, et 3 jours après, elle a lu, elle appelle l'éditrice. Et son amour des mots, son amour de la lecture, est une chose qui était, je crois, consubstantielle de sa personnalité.
Laurent Henneman, même question qu'à nos autres invités. Quel film vous garderez en mémoire ? Ou quelle scène ?
Moi, c'est Julie Jim, parce que,
tout le monde Julie Jim.
Non, mais c'est parce que, si vous voulez, c'est là où tout d'un coup éclate ce symbole de Jeanne Moreau, femme libre des années 60, inauguratrice d'un féminisme intelligent, gay et ouvert vers la vie et vers l'amour, quoi. Donc c'est pour moi le plus emblématique film du personnage de Jeanne Moreau. Maintenant, comme actrice, je pourrais pas choisir, parce que je pense que, enfin, je trouve il y a beaucoup de films où elle est vraiment exceptionnelle. Ascenseur pour l'échafaud, elle est extraordinaire. Et c'est vrai, j'entendais Eva Béton tout à l'heure qui parlait des valseuses. Elle est pathétique, extraordinaire et pathétique dans Les valseuses de Blier. Et puis voilà. Et puis moi, comme metteur en scène, c'est un des plus grands souvenirs de ma vie, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est moi, c'est m'arrivé d'avoir les larmes aux yeux au tournage avec elle. Hein. Et vraiment, quoi, tellement elle allait profondément dans ce qu'elle avait à jouer, sur un registre qui était toujours entre l'émotion et la comédie.
La vieille qui marchait dans la mer, c'était votre film avec Jeanne Moreau. Merci beaucoup Laurent Henneman. Jeanne Moreau, c'était aussi, bon, on l'a dit, Julie Jim, L'ascenseur pour l'échafaud, c'était aussi Les amants de Louis Malle, Le journal d'une femme de chambre de Buñuel, Viva Maria de Louis Malle, La mariée était en noir de François Truffaut, et tellement d'autres. Merci à tous nos invités, Serge Toubiana, Jean-Claude Carrière, Laurent Henneman, Eva Béton. Édition spéciale Jeanne Moreau, à nouveau nouveau ce soir à 18h dans le magazine de l'été de Nelly Capriélan qui parlera de Jeanne Moreau et de la Nouvelle Vague. Et puis à 20h ce soir sur France Inter, rediffusion d'une radioscopie de Jacques Chancel, consacrée donc bien sûr à Jeanne Moreau.
Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.